Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 31 mars. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le scandale sanitaire des pizzas contaminées à l'Escherichia coli. Au moins 75 enfants touchés, témoignage dès le début du journal. Après Anaïs, les autres titres.
La Russie annonce un cessez-le-feu ce matin pour évacuer Mariupol, tandis que les Américains constatent des repositionnements de troupes russes en Ukraine. La poule puante McKinsey à 10 jours du premier tour, opération déminage du gouvernement. Et puis connaît-on vraiment la Joconde, le tableau, exposition immersive pour mieux la découvrir à Marseille.
Et les invités de France Inter ce matin à 7h50, plongés dans les intrigues politiques du Kremlin et la tête de Vladimir Poutine à l'occasion de la sortie prochaine d'un roman stupéfiant d'actualité. Et si pour comprendre les événements d'Ukraine, le détour par la fiction était nécessaire, on posera tout à l'heure la question à l'écrivain et ancien conseiller de Matteo Renzi, Giuliano da Empoli. Il publie Le Mage du Kremlin chez Gallimard. À 8h20, c'est la suite de notre série des 12 grands entretiens avec les 12 candidats à l'élection présidentielle. Ce matin avec Yaël Gauz, nous recevons le candidat du Parti communiste, Fabien Roussel. Amis auditeurs, vous le savez, vous avez largement la parole dans ces grands entretiens. J'attends donc vos questions. Le standard est ouvert. 01 45 24 7000.
France Inter. C'est la plus grosse contamination en France à la bactérie Escherichia coli depuis 25 ans. Des dizaines d'enfants malades, des Hauts-de-France à la Nouvelle-Aquitaine, de la Bretagne au Grand Est, en passant par les Pays de la Loire ou l'Île-de-France. Aucune région ne semble épargnée. Deux enfants sont décédés depuis fin février. Et on sait depuis hier qu'il y a un lien entre la plupart des cas et la consommation de pizza surgelée Fresh Up de la marque Buitoni. Cette bactérie entraîne des complications rénales. Santé publique France continue ses analyses pour d'autres enfants comme Bérénice. Elle a 7 ans, elle est dans le coma artificiel à l'hôpital pour enfants Clocheville de Tours. Lauriane Delanoë a joint son père.
Une pizza Buitoni le mercredi midi, c'était le rituel de Bérénice avec sa mère et sa grande sœur. Un mercredi soir, fin février, elle a comme une gastro, maux de ventre, diarrhée. Son père, Michael, l'emmène chez le médecin le lendemain matin.
Le médecin nous a envoyé aux urgences et derrière, ça a été la descente aux enfers. Les reins ne fonctionnaient plus, ça a attaqué le cœur. Il y a eu deux arrêts cardiaques avec dont un avec massage cardiaque d'une heure. Et donc, elle est sédatée sous le coma depuis 12 jours maintenant. Nous, on espère de tout notre cœur la récupérer dans la meilleure santé possible. Qu'elle soit vivante déjà, ce soit un grand pas pour nous.
Bérénice souffre d'une forme sévère du CHU, le syndrome hémolytique et urémique causé par la bactérie Escherichia coli. Son père nous raconte maintenant les allers-retours entre l'hôpital, la maison, l'école de la Grande et toutes les démarches avec Santé publique France pour trouver d'où vient cette bactérie.
Santé publique France qui s'en occupe, on a été contacté dès le lendemain de l'admission à l'hôpital. Ils nous ont posé des questions sur notre alimentation, où est-ce qu'on allait faire nos courses. Ils sont encore sur l'enquête, sur les analyses, même si ils s'orientent quand même vers les pizzas Buitoni, ce serait une tendance, mais on n'est sûr de rien encore.
Comme Michael et son épouse Leslie, des dizaines de familles en France attendent ces résultats.
Certaines de ces familles envisagent une action collective contre Nestlé, maison mère de Buitoni, si le lien est confirmé. Mais vu l'ampleur des contaminations, on est là face à un phénomène presque inédit, selon Gabriel Jones, épidémiologiste à Santé publique France.
Il s'agit de l'épidémie de plus grande ampleur qui a jamais été décrite en France. La grande majorité des familles interrogées, on est à au moins trois quarts qui rapportent la consommation de ces produits. Parmi les enfants qui font l'objet d'investigations actuellement, la grande majorité sont atteints d'un syndrome hémolytique et urémique. Donc ça, c'est une complication qui est rare mais grave de l'infection à E. coli. Il peut avoir des complications associées qui touchent le cœur et le cerveau. Et on peut avoir également des séquelles assez importantes qui peuvent durer et voir des décès, ce qu'on a malheureusement eu dans le cadre de cette épidémie. C'est une bactérie qui résiste bien au froid mais qui est tuée par le cuisson. C'est pour ça que cette épidémie est très inhabituelle. Donc ça, c'est des investigations qui se poursuivent pour pouvoir répondre avec plus de précision sur cette question.
Gabriel Jones, épidémiologiste avec Hélène Chevalier. Parmi les hypothèses, une cuisson insuffisante ou avec un micro-ondes. Si vous avez une pizza Buitoni Fresh Up dans votre congélateur, il faut la jeter et consulter votre médecin si des symptômes apparaissent dans les 10 jours. Article complet à lire sur franceinter.fr.
Il est 7h05, faut-il croire la Russie quand elle annonce un cessez-le-feu à Mariupol?
22h hier soir, Moscou en effet annonce un régime de silence à partir de tout à l'heure 9h, heure de Paris, pour ouvrir ouvrir un couloir humanitaire vers Zaporijjzé. Mais il y a des conditions: que Kiev assure la sécurité des convois de bus, respecte aussi le cessez-le-feu et que la Croix-Rouge et l'ONU participent à l'opération humanitaire. Faut-il donc croire la Russie, elle qui promettait de réduire drastiquement son activité militaire dans la zone de Tchernigiv, finalement largement bombardée? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky hier soir dit ne pas y croire.
Oui, il y a un processus de négociation qui continue, mais ce ne sont que des mots sans rien de concret. Nous ne croyons personne et surtout pas ces belles paroles. La situation sur le champ de bataille est bien réelle et c'est ça qui compte. Nous ne céderons rien. Nous nous battrons pour chaque mètre de notre territoire, pour chacun des nôtres.
Volodymyr Zelensky hier soir. Quant au mouvement de troupes, selon les Américains, les hommes de Vladimir Poutine seraient en train de quitter la zone de Tchernobyl où personne n'a pas été relevé depuis le 20 mars. Mouvement de troupes, mais pas de retrait à Washington. Sébastien Paour.
Est-ce le premier signe visible des mouvements annoncés au début de la semaine par Moscou? En tout cas, les États-Unis assurent qu'ils commencent à observer les premiers repositionnements de troupes russes en Ukraine. Le Pentagone estime que la Russie a commencé à déplacer un peu moins de 20% de ses forces présentes autour de Kiev et qu'elles se dirigent désormais non pas vers leur garnison, mais vers la Biélorussie. Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, ne donne pas de chiffres du nombre de soldats concernés, mais il cite deux zones que les Russes seraient en train de quitter: l'aéroport de Gostomel, au nord-ouest de la capitale, et le site nucléaire de Tchernobyl, dont ils avaient pris le contrôle dans les tout premiers jours de la guerre. Du mouvement, mais pas de retrait définitif pour autant. Les Américains jugent qu'il s'agit probablement de réapprovisionner et de réorganiser les effectifs militaires pour les utiliser ensuite ailleurs en Ukraine et non pour les renvoyer en Russie. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
Autre question: que sait Vladimir Poutine de ce qu'il se passe en Ukraine? Selon les Britanniques, ses conseillers ont peur de lui dire la vérité. Nous avons vu des soldats russes à court d'armes refuser d'exécuter les ordres, dit le chef des services de renseignement britanniques. Alors que son homologue français vient lui d'être remercié, en février, les renseignements français militaires jugeaient peu probable la conquête de l'Ukraine à cause de son coût monstrueux. Précision dans le journal de 8 heures.
Le recours au cabinet de conseil est, je cite, répandu, habituel, utile.
Oui, ce sont les mots de la ministre de la fonction publique Amélie de Montchalin, missionnée pour s'expliquer devant la presse hier avec le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt. L'affaire McKinsey empoisonne le gouvernement et au-delà, Simon Le Baron, le candidat Macron.
Deux membres du gouvernement qui convient la presse au ministère à 10 jours du premier tour pour répondre directement, même sans les nommer, aux adversaires du président candidat.
Des attaques de plus en plus fortes et de plus en plus grossière.
Il y a des amplifications, il y a des déformations qui sont autant de poison pour le débat et pour la démocratie.
Oubliez le devoir de réserve auquel sont soumis les ministres, Amélie de Montchalin assume cette irruption dans la campagne.
On est là parce qu'on considère que nous sommes dans une période particulière qui est celle d'un débat démocratique important et qu'il nous semble que ce débat doit reposer sur des faits.
Les faits, donc, selon le gouvernement, ce sont des cabinets de conseil loin d'être omniprésents, 0,3% de la masse salariale de l'État, et qui surtout ne font pas la pluie et le beau temps.
Jamais les décisions ne sont prises par les consultants. Les décisions dans notre pays sont prises par des hommes et des femmes politiques, légitimes, responsables devant le Parlement, responsables devant les Français.
Quant aux impôts que McKinsey aurait omis de payer en France, les ministres rappellent qu'un contrôle fiscal est en cours. Pour la suite, ils promettent à nouveau de faire moins appel aux consultants et d'être plus transparents. Nous n'avons rien à cacher, assure le camp Macron, quitte à prendre le risque d'apparaître sur la défensive.
Le gouvernement sur la défensive face à des candidats à l'attaque. Pour le communiste Fabien Roussel, McKinsey, c'est le délitement de la République. Fabien Roussel, par ailleurs, copieusement applaudi par les agriculteurs de la FNSEA hier à Besançon, un auditoire traditionnellement plutôt à droite. Et malgré sa proposition choc, réintroduire l'ours des Pyrénées et le loup, qui a sa place régulée, il faut en discuter, dit-il. Le scrutin dans 10 jours maintenant, le 10 avril, avec un protocole sanitaire désormais connu, il sera possible de voter, même malade ou cas contact, le port du masque fortement recommandé. Nathalie Arthaud s'en félicite sur Twitter hier soir, la candidate Lutte ouvrière. Le 10 avril, on pourra voter même malade du Covid, écrit-elle. Par contre, c'est toujours impossible pour mes voisins qui sont étrangers, qui travaillent et payent des impôts en France. En 2022, l'État français n'est toujours pas vacciné contre le racisme, dit Nathalie Arthaud. Mieux protéger les enfants de l'inceste, la Civise publie aujourd'hui ses 20 propositions, parmi lesquelles obliger obliger les professionnels de signaler les cas et garantir des soins aux victimes. Le policier qui a tiré samedi sur un conducteur de fourgonnette à Sevran a été placé hier en garde à vue pour violence volontaire. L'homme de 33 ans est décédé, déclenchant plusieurs journées de vives tensions. Ravivé dans le quartier de la victime par une forte présence policière. Reportage Mélanie Kuzelevitch.
Dans le quartier des Baudottes, à Sevran, là où habitait l'homme tué samedi par un tir de policier, le geste du fonctionnaire ne passe pas, explique Aïcha, une maman.
C'est un monsieur, c'est un papa, c'est une famille qui a perdu quelqu'un. Ça fait mal au cœur. Tirer sur les pieds, comme tout le monde le dit ici, on peut tirer, on peut faire peur, mais tirer pour tuer, non.
Chaque soir, depuis samedi, un important dispositif policier est mis en place dans le quartier. Déborah Nogbou est coordinatrice d'une association de soutien scolaire juste en face de la cité.
Près de 10 camions de CRS devant l'association. Et c'est vrai que c'est un peu effrayant pour les enfants, même pour les parents. Moi, je pense que ça provoque les jeunes. Ce qu'ils veulent, c'est se battre avec les forces de l'ordre. Et du coup, ça envenime les choses.
Les dernières nuits ont été courtes pour Adem, 7 ans, qui habite dans l'un des immeubles de la cité.
J'entends des feux d'artifice. Après, ça s'arrête, ça revient, ça s'arrête, ça revient. J'arrive plus à dormir. Je crois qu'il y a la guerre.
De son côté, le maire de Sevran, Stéphane Blanchet, appelle au calme. Il se dit conscient que la situation est de plus en plus pesante pour ses administrés.
Pour qu'il y ait la recherche de la vérité, dans la dignité, pour ça, les forces de l'ordre contribuent à ce retour au calme, pour que la justice puisse travailler sereinement.
Une marche blanche doit être organisée par la famille de la victime samedi, au départ d'Aulnay-sous-Bois.
Vigilance orange neige et verglas pour le nord et le Pas-de-Calais. 3 à 5 cm de neige attendue la nuit prochaine. Et puis elle débarque à Marseille, la Joconde. Pas le tableau, mais une exposition immersive pour mieux connaître son histoire. Héloïse Roger, vous avez testé au Palais de la Bourse.
L'ambiance est tamisée tout autour de nous, projetée sur les murs. Les paysages peints par Léonard de Vinci nous enveloppent et évoluent au rythme de la musique composée par Rhône. Au centre de la pièce, 6 installations numériques pour découvrir tous les mystères de la Joconde. Roy Amit est le directeur général du Grand Palais Immersif à l'origine de cette exposition.
Dans chacun de ces chapitres se trouve plusieurs écrans tactiles qui permettent d'aller plus loin. On explore un pan de ces mystères de la Joconde qui va de sa conception en passant par le fait qu'elle était copiée, étudiée pendant des générations et puis le fait qu'elle était volée.
Et justement, Chloé et sa mère ont commencé l'exposition avec cette mésaventure.
Il y a un écran tactile et on clique sur la personne qu'on croit être le voleur de la Joconde. Du coup, on a un petit résumé pourquoi on croit que c'est lui qui est accusé.
Alors parmi les 6 choix, Chloé clique et pas de chance, ce n'est pas celui qu'elle croyait.
Moi, j'aurais misé sur Arsène Lupin, mais là, du coup, je ne sais pas.
Un peu plus loin, Nicole explore les techniques picturales du tableau comme une véritable scientifique.
La flectographie infrarouge nous dit que la tache claire près du nez est en fait une très légère abrasion du subtil glacis d'ombre posé par Léonard.
Une immersion poétique et pédagogique qui nous emmène au cœur de cette œuvre mythique.
Et c'est au Palais de la Bourse de Marseille jusqu'à cet été.
Merci Anaïs Feugat. Le zoom dans 3 minutes aujourd'hui sur la SNCF face aux juges.